20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez depuis le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Avec le CIC, partenaire fondateur.
Bienvenue au Grand Théâtre de Provence pour le journal du classique depuis le hall du Grand Théâtre de Provence en public. Et merci au public d'être venu pour ce journal du classique. Spécial Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, et notre invitée est la violoniste Anna Agafia Egholm. Bonjour.
Bonjour.
Vous jouerez demain soir à 20h30 ici au Grand Théâtre de Provence le concerto pour violon numéro 2 de Mendelssohn avec l'Orchestre National Symphonique de Lettonie, dirigé par Jean-Claude Kezetsu. Deux générations d'artistes, hein, on va dire, puisque vous n'avez pas 30 ans, pas même encore 28 ans, vous fêterez votre 28e anniversaire en juin prochain. On va parler un petit peu de ce programme, on va parler de vous aussi, de votre parcours. Vous êtes né au Danemark, vous avez étudié au lycée français de Copenhague et vous parlez un excellent français, on va s'en rendre compte tout de suite, mais moi je le sais déjà. Et nous allons parler donc de votre parcours aussi, je vous le disais. Mais tout d'abord, c'est la première fois que vous êtes invité ici par Renaud Capuçon, le directeur artistique du festival. C'est la première fois que vous êtes invité au festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Alors vos premières impressions?
J'ai déjà été à Aix-en-Provence deux fois avant, mais pour le festival Nouveaux Horizons. Donc je connais un petit peu la ville, j'adore cette ville, je la trouve absolument magnifique. J'adore l'air et le ciel.
Surtout sous le soleil.
Oui, absolument, il fait tellement beau. Et pour l'instant, je suis arrivée hier soir, donc pour l'instant j'ai pas vraiment eu d'impression à part l'hôtel, qui est incroyable aussi. Donc pour l'instant seulement des très très bonnes impressions.
Et vous assisterez, parce que c'est ça aussi l'intérêt d'un festival. Les artistes arrivent évidemment, là vous êtes arrivé hier, donc 48 heures avant votre concert. Vous aurez l'occasion d'assister aux différents concerts qui sont proposés, de voir vos collègues, d'aller les écouter ou pas?
Oui, absolument. Ouais. Heureusement, on nous propose des billets pour tous les concerts, plus ou moins, donc voilà, je vais en profiter.
Quelle spectatrice vous êtes quand vous assistez à un concert?
C'est une question très intime. Je m'intéresse à tout type de musique. Donc en général, je suis une très très bonne spectatrice.
Pas que la musique symphonique ou la musique
non,
de chambre.
Non, pas du tout. Pas que la musique classique. Je vais plus, beaucoup à des concerts autres que ça aussi. Oui.
Alors, comment c'est fait? On va parler de ce programme, donc le concerto pour violon numéro 2 de Mendelssohn. Comment s'est fait le choix de cette œuvre?
D'après mes connaissances, c'est Renaud Capuçon qui a choisi la pièce. Je pense, d'après ce que j'ai compris, qu'il l'a choisi en fonction de comment il trouve mon jeu. Donc c'est une pièce qui, a priori, me va bien.
C'est-à-dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça me va bien, cette pièce?
On a tous un son très différent, on a tous une esthétique très différente. Et je pense que cette musique-là me va bien dans le sens que c'est une pièce qui est extrêmement fine, élégante et avec beaucoup de sensibilité. Et je crois que ça complémente mon jeu assez bien.
Vous avez déjà enregistré Mendelssohn, parce que vous avez enregistré le Nocturne à cordes. On écoutera tout à l'heure un extrait. C'est un compositeur dont vous vous sentez proche, visiblement, si on vous comprend bien.
Oui, je l'aime beaucoup, parce qu'il est très, très particulier, vu qu'il se situe vraiment plutôt au début de l'ère romantique. Mais il reste quand même beaucoup d'éléments classiques, vraiment, qui font penser beaucoup à Mozart, etc. Il y a énormément de changements de caractère très brusque, très rapide, et oui, comme j'ai dit, beaucoup d'élégance aussi, et je trouve que c'est vraiment très spécial, c'est ce qui rend ce concerto vraiment particulier par rapport aux autres.
Et quand vous travaillez une œuvre, c'est nouveau pour vous, vous ne l'avez jamais joué?
Je l'ai beaucoup joué.
Beaucoup joué, c'est
heureusement,
ça.
Oui. Voilà,
heureusement. Alors, comment la première fois vous l'avez travaillé, ce concerto?
La première fois, c'était il y a 10 ans, je pense. Donc, je ne m'en souviens pas très bien. Je me souviens que j'ai eu beaucoup de difficultés. mais j'aime beaucoup le fait qu'à chaque fois qu'on reprend une œuvre, elle grandit avec nous, avec notre goût, avec nos capacités. Et donc, à chaque fois que je la reprends, elle est assez nouvelle.
Oui, parce que 10 ans, c'est quand même... Vous aviez 18 ans
oui,
à l'époque,
voilà.
C'est ça.
Alors, 17.
Ouais, 17 même. Oui, vous n'avez pas encore 28. Hein. Mais justement, comment en 10 ans, ça, votre vision, votre interprétation a changé?
Je pense qu'au début, je la voyais vraiment comme une pièce très romantique. Et donc c'est surtout ça qui a évolué, j'ai l'impression de m'être rapprochée plutôt de l'esthétique un petit peu post-Mozart, mais pas du tout encore Brahms ou Tchaïkovski. Voilà, donc elle devient de plus en plus raffinée, j'ai l'impression. Et puis, les phrasés changent aussi. Enfin, on découvre des nouvelles harmonies qu'on n'avait pas forcément entendues avant, etc. C'est en général ce qui me plaît dans le fait de faire du violon, dans le fait de pratiquer la musique classique, c'est le fait de pouvoir redécouvrir tout le temps toutes les pièces qu'on joue.
Alors, on va vous écouter dans Mendelssohn, Anna Agafia Egholm, l'octuor à cordes dont nous parlions, Lorenzo Gatto notamment, et Miguel da Silva, c'est le troisième mouvement. Félix Mendelssohn, l'octueur, accorde le troisième mouvement avec notamment Lorenzo Gatto, Miguel da Silva et Anna Agafia Egholm, qui est l'invité ce soir du Journal du Classique depuis le Grand Théâtre de Provence, depuis le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Vous jouerez demain soir le concerto pour violon numéro 2 de Mendelssohn également, avec sous la direction de Jean-Claude Casadesus et l'Orchestre National Symphonique de Lettonie. C'est intéressant, Anna Agafia Egholm, vous me disiez à l'instant que c'est la première fois que vous écoutiez cet enregistrement.
Oui,
c'est ça.
Vrai.
Auquel vous avez quand même participé, n'est-ce pas?
Oui, oui, absolument.
Ça va, ça vous a plu vous...
Oui.
Oui, très bien.
Oui,
bon,
oui, je suis très agréablement surprise. Oui.
Alors, quel effet ça fait de se réécouter comme ça?
D'un côté, bah, là, j'ai l'impression que le son a été très, très bien fait. C'est très fin. Et puis, vu que c'est un octueur, je m'entends pas forcément tout le temps, donc ça va. Mais c'est vrai que le fait de se réécouter après avoir enregistrer quelque chose, c'est pas toujours très simple. Ça peut être un petit peu désagréable. C'est un peu comme s'entendre parler, parce que on entend que c'est, j'entends que c'est moi qui joue, et on a toujours un rapport très très spécifique à notre propre voix, à notre propre instrument.
Vous avez enregistré, vous avez participé aussi à une intégrale musique de chambre de César Franck, qui était, on écoutera un extrait tout à l'heure, qui était enregistré il y a 3 ans. Et dans le livret, vous dites une chose intéressante. Ce CD fixe un moment de mon développement, et déjà, je voudrais tout faire autrement. Est-ce que ça s'applique aussi à l'octueur qu'on vient d'écouter ou pas?
Un peu moins.
Un peu
je
moins,
pense.
Ouais,
oui.
Pour, ouais,
mon rôle, ouais, dans l'octueur était un peu moins important, je pense, que dans les trios. Mais en général, oui. Oui, j'ai fait un enregistrement du concerto de Nielsen et deuxième concerto de Szymanowski. Et pareil, en le réécoutant maintenant, alors que ça fait moins de 2 ans que je l'ai enregistré, j'aurais tout fait différemment maintenant, oui.
Alors c'est le signe de quoi? C'est une évolution, votre jeu est en évolution permanente, votre rapport aux œuvres, votre façon de l'interpréter, de l'appréhender?
Oui, c'est le tout. C'est mon esthétique qui change, je pense. C'est la façon dont même aussi la technique se développe sur l'instrument. La direction, oui, et esthétique, et mon goût, le goût que je prends peu à peu. Parce que j'apprends à connaître d'autres musiques aussi, etc. Et donc je pense que... je crois que c'est très normal. Je vois pas ça comme une mauvaise chose, en fait, de réécouter ces enregistrements et de se dire waouh, c'est pas ce que j'aurais fait maintenant.
Ouais, ouais, c'est une bonne évolution.
Oui,
en tout cas, voilà,
oui,
c'est
oui.
Ça. Ouais. On va revenir à ce concert que vous donnerez demain, donc sous la direction de Jean-Claude Casadesus. Vous avez donné le même programme, en l'occurrence donc le Mendelssohn, le concerto numéro 2, à Riga avant-hier. C'est la première fois que vous étiez dirigé par Jean-Claude Casadesus, qui est une institution, on va dire, en France.
Oui.
Ça s'est bien passé.
Oui, ça s'est très très bien passé.
Un monsieur charmant, très agréable,
très gentil,
très dynamique. Ouais, ouais,
oui,
ouais.
Oui, oui, et vraiment positif. Et ouais. Les répétitions étaient efficaces et oui, vraiment vraiment très positives.
Ouais. Quand il dirige, il sourit. Ça, c'est
oui,
important. C'était
oui.
Le cas aussi. Ouais, ouais.
Mm-hmm,
c'est
absolument.
Important pour un soliste. Ouais, on se sent porté, guidé.
Oui, ouais, oui, c'est ouais. C'est un soutien. Il m'a demandé après une des répétitions s'il me gêne avec ses mouvements, etc. Et je lui ai dit que pas du tout, au contraire, c'est le meilleur soutien qu'on puisse avoir.
Alors comment ça se passe? Je disais vraiment deux générations d'artistes. Vous proposez des choses, lui aussi, c'est un dialogue, comment vous fonctionnez, particulièrement avec lui en tout cas?
Honnêtement, ça s'est fait assez naturellement, j'ai l'impression. On s'est vus juste tous les deux avant la première répétition avec l'orchestre, et c'est allé de soi. Voilà, il m'a juste dirigé, on a filé le concerto. Ouais. Et on était vraiment plus ou moins d'accord sur tout.
Parfait,
et puis j'utilise aussi cette opportunité pour m'inspirer de lui, de quelqu'un comme lui qui est tellement important. Donc je suis sûre qu'il peut m'apprendre des choses aussi. Donc je prends ce qu'il a à donner et puis voilà, j'essaie de l'intégrer.
Alors parmi les personnes qui ont certainement eu des choses à vous donner, il y a Augustin Dumay, parce qu'on va parler de la chapelle musicale Reine Elisabeth. Vous êtes en résidence pour quelques mois encore.
Oui.
Et vous avez dit à propos d'Augustin Dumay, c'est un professeur qui me donne de l'énergie.
Ouais. Oui, c'est vrai. Absolument.
Racontez-nous.
Il est très énergique. Voilà, il est vraiment très énergique et il joue vraiment vraiment très très bien. Il a un son incroyable, tellement chaleureux et tellement puissant, et oui, il donne de l'énergie et il donne de la confiance en soi. Il est très positif aussi comme personne. C'est vraiment agréable. Il y a des professeurs où on a peur d'aller en cours, où c'est un petit peu angoissant. Ils peuvent être soit possessifs, soit juste méchants. Mais Augustin, il est rien de tout ça.
Il est généreux, quoi. C'est,
oui.
Il donne.
C'est oui, ça, oui, 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 absolument.
Aussi. Mais rigoureux, quand même.
Oui.
J'imagine, oui.
Oui, oui, bien sûr. Oui. On peut passer 2 heures sur une toute petite pièce. Oui, mais il est très, très, très généreux. Bon. Il me donne souvent à manger quand je viens chez lui.
C'est joli, voilà. Oui. Au propre comme au figuré.
Oui.
Musicalement, et voilà. On va toujours dans le cadre de cette résidence à la chapelle musicale Reine-Élisabeth. Vous avez participé à l'enregistrement d'une intégrale musique de chambre de César Franck avec différents solistes. Et on va écouter le troisième mouvement du trio concertant numéro 2 de César Franck. On l'appelle aussi le trio de salon. Franck Bralet, vous, Anna Gaffier-Aigon et Harry Evan. César Franck, le troisième mouvement du trio concertant numéro 2, qu'on appelle aussi le trio de salon, avec Franck Bralet, Anna Gaffier-Aigon, qui est l'invitée ce soir du Journal du Classique, et Harry Evan, violoncelle, dans le cadre d'un coffret Une intégrale César Franck avec les solistes de la chapelle musicale Reine-Élisabeth. Vous êtes en résidence encore pour quelques mois dans cette, à la chapelle musicale Reine-Élisabeth à Bruxelles. On parlait tout à l'heure de Jean-Claude Casadesus, d'Augustin Dumay. Franck Bralet, c'est également une sacrée personnalité musicale, un immense artiste. Hein, on l'a entendu, c'est absolument sublime ce qu'il fait. Comment s'est passé cet enregistrement? C'est un très grand musicien.
Oui, absolument. Je le trouve très, très patient en enregistrement. On a eu, je sais plus, il me semble qu'on a eu deux jours et demi pour enregistrer les trois trios, et c'est quand même beaucoup
intense,
de musique.
Ouais.
Oui.
Ouais, ouais.
Donc c'était des très très longues journées et Franck a été calme tout au long. C'était vraiment incroyable. C'était une très très belle expérience.
Et c'est quelqu'un qui est très à l'écoute aussi de ses partenaires.
Oui, hein. Vraiment.
Et sans musique de chambre, évidemment, c'est un bonheur, c'est indispensable.
Ouais. Absolument, ouais. Absolument. Et j'ai eu la chance de jouer avec lui quelques fois depuis aussi à différents festivals. Et à chaque fois, ça a été absolument magnifique.
Donc demain, musique concertante. Là, on vient de vous écouter musique de chambre. Où va votre préférence? Et si tant est qu'il y en ait une, ça, les deux genres de musique se nourrissent l'une de l'autre.
Oui, je considère le concerto avec orchestre comme une sorte de musique de chambre élargie, parce que ça reste quand même, comme vous dites, c'est concertant. Enfin, c'est un dialogue avec l'orchestre et avec le chef. Donc pour moi, c'est presque plus ou moins la même chose, avec une petite préférence pour le concerto, parce que je peux être debout, donc il y a plus de liberté.
Ah, voilà. Mais en même temps, vous pouvez jouer de la musique de chambre. Non, c'est plus compliqué de
c'est
debout.
C'est plus compliqué en trio, en tout
trio,
cas.
Voilà. Mais vous l'avez fait pour l'enregistrement, c'est ça?
Pour l'enregistrement, ouais. Oui, voilà, j'ai demandé
concert,
à être
vrai,
debout.
Ouais.
Oui, oui.
Et pourquoi? Parce que
pour le corps, c'est plus naturel. Ouais, ouais. J'ai l'impression on peut plus bouger. Il n'y a pas la jambe qui gêne quand on mène l'archet. Enfin, c'est beaucoup beaucoup plus agréable. Et puis je travaille debout aussi. Donc je sais qu'il y a beaucoup de violonistes qui choisissent de travailler assis, mais ça me plaît pas. J'aime beaucoup marcher.
Alors vous m'offrez une magnifique transition, parce que là c'est un peu l'aspect, on va dire, physique du jeu. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut parler patinage artistique avec vous? Oui.
Oui.
Alors
oui,
il y a une raison, vous allez nous expliquer, parce que c'est un sport que vous avez pratiqué, hein,
oui.
N'est-ce pas? Et puis à un moment il a fallu choisir, et ça aurait pu être le patinage artistique, c'est ça?
Oui, donc ouais. Mon enfance a été, j'ai eu une sorte de double, même triple vie.
C'est magnifique, à 28 ans, bah bravo. Pas encore 28 ans.
Oui, oui, oui. Absolument, c'est grâce à ma maman qui voulait que j'apprenne le plus de choses possible dans mon enfance, parce que c'est plus simple à apprendre quand on est petit. Donc j'ai été envoyée avec mon petit frère dans une école française plutôt que danoise. On a appris le russe tout petit parce que ma maman a des origines ukrainiennes. Et on a été placés dans des écoles de musique et de patinage. Et j'ai fait aussi du théâtre et des films. Donc, un petit peu de tout. Pendant assez longtemps, le patinage a duré jusqu'à... J'ai commencé à 5 ans, le tout plus ou moins.
Simultanément, pour les questions.
Oui, wow. Oui.
Ça s'appelle être surdoué,
piano,
tout simplement.
Oui. Voilà, et puis le piano aussi, sur le côté un peu, mais c'était plus pour avoir une base au piano, pour ne pas être complètement perdu. Et j'ai dû arrêter le patinage après avoir fait plein de compétitions, etc. C'était du patinage artistique. On en faisait avec mon petit frère, mais on n'était pas partenaire, c'était en solo. Et on faisait des compétitions. J'étais troisième au Danemark.
Félicitations. Ah oui.
Merci. j'ai dû arrêter à 12 ans parce que j'ai eu un problème au genou qui a fait que j'ai pas pu continuer. En tout cas, il fallait que je prenne une grande, grande pause. Et après, on a décidé de ne plus continuer parce que ça empiétait aussi sur l'école. J'étais obligée de partir une demi-heure avant la fin des cours. On avait 8 entraînements par semaine.
Oui, donc c'est intense.
Oui, ouais. Plus un entraînement de ballet et un entraînement de musculation.
Mais comme la musique, de toute façon, enfin, vous êtes des sportifs de haut niveau, donc
oui,
il
voilà.
Faut le dire, c'est ça, voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est un apprentissage, c'est un travail quotidien, j'imagine. Quoi.
Ouais. Absolument. Ouais. Donc, et là, on arrivait à un niveau où il fallait commencer le patinage aussi le matin, donc il fallait 2 entraînements par jour, etc. Ça, c'était plus possible. C'était soit ça, soit l'école et le violon, et du coup, on a choisi l'école et le violon.
J'ai une mauvaise nouvelle, on arrive déjà à la fin de ce journal du classique. On va se quitter en musique. Pauline Viardot, toujours avec Franck Bralet, la sonatine pour violon et piano, le deuxième.
Merci.
Pauline Viardot, la sonatine pour violon et piano, le deuxième mouvement, Anna Agafia-Egholm et Franck Bralet. Anna Agafia-Egholm, qui était l'invitée ce soir du Journal du Classique. Merci beaucoup d'être venue.
Merci de m'avoir invitée.
Demain soir, donc, première participation au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence avec l'Orchestre National Symphonique de Lettonie. Jean-Claude Cazette à la direction. Vous jouerez le concerto pour violon numéro 2 de Félix Mendelssohn. On vous souhaite toy-toy, comme on dit, c'est
merci
ça?
Merci beaucoup. Voilà.
Merci d'être venue. Merci au public présent pour ce Journal du Classique. Mais si, bravo également à vous. C'est important d'être soutenu. Merci à Lucille Metz et à Clément Atlan pour la réalisation. Prochain enregistrement du Journal du Classique spécial Festival de Pâques, ce sera toujours ici depuis le hall du Grand Théâtre de Provence, après-demain, lundi à 13h. Alors si évidemment vous êtes à Aix, vous êtes les bienvenus. Aix en Provence, et je me permets de faire un petit peu de publicité, vous pouvez écouter Radio Classique en FM sur 100.9 et aussi le DAB+, puisque vous le savez, en numérique, Radio Classique étend sa couverture en qualité numérique. Et lundi, je recevrai Gérard Cosset et votre consoeur, la violoniste Clémence de Forceville. Dans l'immédiat, c'est Francis Drezel qui vous accompagne avec ses variations. Très belle soirée sur Radio Classique.